Chapitre 2. Maître Humphrey du coin du feu, à côté de son horloge. Ma vieille compagne m'avertit qu'il est minuit. Le feu qui flambe dans l'âtre étincelle et crépite gaiement, comme s'il était heureux de brûler. Le joyeux grillon du foyer, mon fidèle visiteur, la flamme vermeille, mon horloge et moi, nous semblons nous partager le monde et être seuls à veiller. Le vent, tout à l'heure violent et impétueux, se calme. On n'entend plus que son rauque murmure. On dirait qu'il dort. J'aime toutes les heures du jour et toutes les saisons à mesure qu'elles se succèdent, mais j'aime par-dessus tout, qu'elles viennent ou qu'elles s'enfuient, ces heures paisibles de la nuit où le silence et l'obscurité semblent ressusciter d'anciens souvenirs ensevelis en moi-même et ranimer des joies et des espérances presque effacées par le temps. La croyance populaire au revenant me paraît avoir une affinité remarquable avec cette rêverie de notre imagination en ces heures tardives. Elle semble en être la conséquence naturelle et nécessaire. Qui pourrait en effet s'étonner de voir un homme ajouter foi à des récits où des âmes dépouillées de leur corps reviennent visiter des lieux jadis tendrement aimés, quand cet homme, séparé lui-même presque autant que ses âmes du monde où il vivait autrefois, soupire perpétuellement après certaines émotions et certaines époques du passé, et plane en quelque sorte comme son propre fantôme par-dessus des lieux et des personnes qui ont jadis fait battre son cœur. C'est ainsi qu'à cette heure de repos, je vais hanter la maison où je suis né, la chambre où je me tenais d'habitude, les scènes de mon enfance, de ma jeunesse, de mon adolescence. C'est ainsi que je rôde autour de la tombe où dort mon trésor, bien que ce ne soit ni de l'or ni de l'argent, et que je pleure sa perte. C'est ainsi que je reviens au centre de foyer depuis longtemps éteint, que je reprends ma place muette à des chevets depuis longtemps abandonnés. Et si jamais, quand mon corps sera retombé en poussière, mon âme revient se glisser dans cette chambre, elle ne fera que suivre un chemin souvent parcouru déjà. Un auxiliaire puissant pour moi dans toutes mes méditations de désœuvrer, ce sont les diverses légendes qui se rattachent à ma demeure et dont le nombre est si grand que c'est à peine s'il est chez moi un placard ou un recoin qui ne me rappelle à lui seul quelques ténébreuses histoires. Lorsque j'eus l'idée d'établir ma demeure dans cette maison, l'on m'assura qu'elle était hantée de la cave au grenier. Et je crois que la mauvaise opinion que mes voisins ont eue de moi vient de ce que je n'avais été ni haché menu, ni même affolé d'épouvante dans la première nuit qui suivit ma prise de possession. L'une ou l'autre de ces alternatives, au contraire, si elle se fût réalisée, m'aurait conduit par le plus court chemin à l'extrême sommet de la popularité. En dehors de toutes ces traditions, de toutes ces légendes, je suis très poussé vers cet ordre d'idées par mon vieil ami le sourd. Que de raisons j'ai de bénir le jour où nous sommes rencontrés, et bien heureux, jour de Noël, car ce fut un jour de Noël, ce jour auquel, dès notre enfance, nous associons une idée de confiance, de tendresse et d'amitié. J'étais sorti, éprouvant le besoin d'égayer ma solitude par le spectacle du bonheur des autres. J'avais passé quelques heures à examiner les modestes apprêts de fêtes et de réjouissances qui se faisaient presque partout. Tantôt je m'arrêtais à contempler une bande joyeuse courant dans la neige vers son lieu de réunion, tantôt je me retournais pour voir toute une chartée d'enfants déposés sains et saufs à la porte de la bienheureuse maison où les attendait l'arbre de Noël. Là, j'admirais avec quelle précaution un ouvrier portait son marmot au chapeau prétentieux et empanaché, comment sa femme, trottant patiemment derrière lui, oubliait facilement les soucis et les soins que lui avait causé la confection des habits de fête en échangeant de petits bonjours avec l'enfant cramponné sur l'épaule de son père et riant aux éclats. Ici, je me divertissais au passage de quelques couples de galants ou d'amoureux. J'étais heureux de penser que, pour un moment, la moitié du monde des pauvres était gai et joyeux. Le jour tombait, et j'errais toujours dans les rues, trouvant un semblant de société dans ces feux étincelants qui, sur mon passage, réfléchissaient leur éclat sur les vitres. Je perdais jusqu'au sentiment de ma propre solitude en pensant à la bonne hospitalité, à la camaraderie dont les symptômes éclataient partout. À la fin, je vins à m'arrêter devant une taverne et, voyant un menu affiché à la fenêtre, j'eus soudain l'idée de voir quelle espèce de gens dînaient seuls à la taverne le jour de Noël. Les gens qui vivent en solitaire ont, à ce qu'il me semble, l'habitude de considérer la solitude comme leur bien propre. J'avais passé bien des anniversaires de cette grande fête tout seul au coin de mon feu, mais il me semblait que cela ne devait arriver qu'à moi. Pour qui donc la taverne était-elle ouverte? Attendait-elle des dîneurs ou n'était-elle ouverte que pour la forme? Pour la forme, évidemment, et je m'éloignais. Mais j'avais à peine fait quelques pas que je m'arrêtai et jetai un coup d'œil en arrière. La lanterne allumée au-dessus de la porte de la taverne avait cependant l'air d'être là pour éclairer quelque chose. Je la trouvais même provocante. Si la taverne renfermait pourtant quelques clients, de pauvres jeunes gens en lutte avec la vie, étrangers, perdus dans la grande ville, dont les amis demeuraient trop loin pour que leurs maigres ressources leur permissent d'aller les retrouver. Cette supposition me fit faire de si navrantes réflexions que, plutôt que de rentrer chez moi sous cette impression, je résolus d'aller au-devant de la réalité. Je revins donc sur mes pas et j'entrai dans la taverne. Je constatai immédiatement, avec joie, mais aussi avec un grain de tristesse, qu'il n'y avait dans la salle qu'un dîneur. Ma joie venait de ce qu'il n'y en eût qu'un, ma tristesse de ce qu'il fût là, seul, abandonné à lui-même. Il ne me paraissait pas aussi âgé que moi, mais c'était loin d'être un jeune homme, et ses cheveux étaient presque blancs. Quoi que j'eusse fait en entrant et en m'asseyant, plus de bruit qu'il n'était besoin, voulant attirer ainsi son attention et souhaiter le bonjour dans les termes consacrés de ce jour-là, il ne leva pas la tête qu'il avait appuyée sur sa main. Il était là, assis et rêvant, devant son assiette à moitié remplie. Je me fis servir quelque chose pour motiver ma présence dans la salle. J'avais d'ailleurs dîné de bonne heure, ma ménagère étant invitée à festoyer chez des amis, et je m'assis à une place d'où je pouvais examiner mon compagnon sans lui sembler importun. Au bout de quelques instants, il leva les yeux. Il avait bien eu la conscience que quelqu'un était entré, mais il ne pouvait me voir, attendu que j'étais dans l'obscurité, et lui, au contraire, assis en pleine lumière. Je n'avais jamais vu un visage respirant autant de douceur et de patience, et une vive sympathie me venait pour ce pauvre homme à mesure que je l'examinais. Pourquoi, lui qui était sans doute habitué à vivre au milieu d'amis, était-il là en ce jour où chacun est entouré des siens? Il n'était certainement pas accoutumé à la solitude, car je sais par moi-même que s'il l'eût été, sa manière d'être eût été toute différente. Il eût témoigné au moins d'un intérêt quelconque en voyant entrer un étranger. Il me fut impossible de ne pas remarquer qu'il n'avait pas faim, qu'il ne pouvait chasser une préoccupation douloureuse, qu'il essayait en vain de manger, qu'à plusieurs reprises il repoussa loin de lui son assiette pour reprendre son attitude mélancolique. Sans doute il songeait au Noël d'autrefois. Ceux-ci apparaissaient devant lui, non pas séparés les uns des autres par de longs intervalles, mais au contraire, groupés ensemble, comme les jours d'une semaine. C'était pour lui un grand changement de se trouver pour la première fois, j'avais décidé que ce devait être la première fois, tout seul, dans une salle vide et silencieuse où pas une âme ne s'occupait de lui. Je ne pouvais m'empêcher de le suivre en imagination, de le voir entouré de visages aimables, puis transporté ensuite tout seul dans cette taverne dont la branche de gui se courbait sous la chaleur du gaz et les rameaux de houx se desséchaient dans une lourde atmosphère de friture et de graillons. Le garçon attitré de l'établissement était allé souper en famille, laissant son remplaçant, un pauvre malheureux, hâve et flanqué, faire Noël sans sa jaquette. Cependant, mon nouvel ami m'intéressait de plus en plus. Son dîner terminé, on avait placé devant lui une carafe de vin. Il resta longtemps sans y toucher, puis enfin, d'une main mal assurée, il remplit son verre et le porta à ses lèvres. Mais ses lèvres, occupées peut-être à formuler quelques tendres souhaits, à prononcer un nom chéri, se détournèrent. Il replaça bien vite le verre sur la table, le reprit encore, le reposa, et finit par cacher son visage dans ses mains, au travers desquels je vis couler quelques larmes. Sans m'arrêter à examiner si je faisais bien ou mal, je traversai la salle, m'assis à côté de lui et posai doucement ma main sur son épaule. Mon ami, lui dis-je, n'en veuillez pas à un vieillard qui voudrait vous consoler, car il a souffert lui aussi, et il ne vous conseille que ce qu'il a fait lui-même. Quel que soit votre chagrin, prenez courage de grâce, prenez courage. Je vois que vous parlez avec chaleur, me répondit-il, et avec bienveillance, j'en suis persuadé, mais... Je secouai la tête pour lui montrer que j'avais déjà compris ce qu'il allait me dire. En effet, à une certaine fixité dans l'expression du visage, et aussi à l'attention avec laquelle il m'avait regardé parler, j'avais reconnu qu'il avait perdu le sens de l'ouïe. Il doit y avoir une sorte de confraternité entre nous, repris-je en portant mon regard de lui sur moi pour lui expliquer ma pensée. Sinon, à cause de nos cheveux blancs, du moins en raison de nos infortunes, vous voyez que je ne suis moi qu'un pauvre infirme. Depuis le douloureux moment où j'avais eu pour la première fois conscience de mon infirmité, je ne m'étais jamais senti plus heureux qu'au moment où mon compagnon me prit la main en souriant. Ce sourire, à dater de ce jour, a illuminé ma vie, et où nous nous trouvâmes assis, tous deux, côte à côte. Tel fut le début de ma liaison avec mon ami le sourd. Ne vit-on jamais un service aussi minime et aussi léger, une bonne parole donnée à propos, récompensée par un attachement et un dévouement comme ceux qu'il m'a témoigné depuis? Il tira de sa poche des tablettes et un crayon, de manière à faciliter notre entretien, et je me souviens encore combien j'étais mal à mon aise et embarrassé pour écrire ma part du dialogue, et avec quelle facilité il devinait, lui, ma pensée, avant que j'eusse eu le temps d'écrire la moitié de ce que je voulais lui dire. Il me raconta, d'une voix mal assurée, qu'il n'était pas habitué à passer dans la solitude le jour de Noël, qui avait au contraire toujours été un jour de fête pour lui, et voyant que je regardais ses habits avec l'idée qu'il devait être en deuil, il ajouta bien vite que, hélas, il n'en était rien. Plût à Dieu qu'il n'eût que des morts à pleurer. Depuis ce temps, nous n'avons plus jamais abordé cette question. Nous passons pourtant ensemble chaque année ce jour de Noël, nous buvons après dîner à nos santés réciproques et, la main dans la main, nous rappelons chaque détail de notre première entrevue, mais, comme d'un commun accord, nous avons toujours évité ce sujet. Cependant, notre amitié et notre estime mutuelle ont toujours été augmentant, et nous en sommes venus à former une liaison qui, je le crois et je l'espère, ne cessera qu'avec notre vie, pour recommencer bien certainement dans un monde meilleur. Je ne m'explique pas comment nous sommes arrivés à nous entendre si bien, mais il y a longtemps qu'il n'est plus sourd pour moi. Il m'accompagne fréquemment dans mes promenades, et même dans les rues les plus fréquentées et les plus bruyantes. Il répond à mon moindre coup d'œil, à mon plus petit geste, comme s'il pouvait lire ma pensée. Au milieu de tous les objets qui se succèdent rapidement devant nos yeux, il nous arrive souvent de choisir le même, au même instant, pour en faire l'objet d'une remarque ou d'une réflexion particulière. Et à chacune de ces coïncidences, je ne puis dire la joie que nous éprouvons. À force de vivre ainsi seul avec lui-même, mon ami est devenu un penseur profond, et comme avec cela son imagination est des plus vivantes et qu'il a une facilité et une originalité de conception et de développement très remarquables, cela le rend inappréciable pour notre petit cénacle. Il a dans ces moments-là un puissant auxiliaire. C'est une pipe énorme, une pipe d'un aspect antique et mystérieux et d'une capacité telle que son maître met bien 3 heures et demie à la fumer. J'ai certaines raisons de croire que mon barbier, orateur favori d'un petit groupe de bavards qui se réunit chaque soir chez la marchande de tabac d'à côté, a raconté à ses auditeurs sur cette pipe et sur les figures rébarbatives sculptées sur son fourneau des anecdotes qui ont dû pétrifier d'horreur tous les fumeurs du voisinage. Et je sais que ma ménagère, tout en professant pour l'objet en question une grande vénération, nourrit aussi à son endroit une crainte superstitieuse qui lui rendrait des plus désagréables la nécessité d'un tête-à-tête avec elle dans l'obscurité. Quelques chagrins qu'ait éprouvé mon fidèle ami et quelque douloureuse que soit encore la blessure qui saigne dans quelque coin secret de son cœur, c'est à présent un être gai, paisible et heureux. Le malheur ne peut jamais tomber sur une pareille âme que pour son bien. Quant à sa pipe, j'ai sur elle mon opinion particulière. Je ne puis m'empêcher de lui supposer un certain rapport avec l'événement qui nous a rapprochés. Je me souviens en effet qu'il s'écoula très longtemps avant même qu'il en parlât. Quand il le fit, ce fut avec une réserve et une mélancolie qui me frappèrent. Je n'ai d'ailleurs aucune curiosité à l'égard de cette pipe. Je sais seulement qu'elle ajoute à sa tranquillité et à son bien-être. C'est une raison suffisante pour moi et je l'ai prise en affection. Voilà, au moral, le portrait de mon ami le sourd. Au physique, il est tout habillé de gris. Il ne quitte jamais le coin du feu. Il rejette par petites bouffées la fumée de sa pipe favorite et me lance un regard empreint d'une amicale cordialité en accompagnant d'un gai sourire son aimable et spirituelle causerie. Puis il lève les yeux vers mon horloge qui est sur le point de sonner. Et nous regardant alternativement, elle et moi, il semble partager son cœur entre nous deux. Vraiment, je n'exagère rien en affirmant que je donnerais volontiers un de mes pauvres membres pour qu'il puisse entendre le timbre de ma vieille horloge. Passons maintenant à nos deux autres amis. Le premier a été toute sa vie un de ces garçons légers, capricieux, flâneurs, dont on dit généralement qu'ils sont leur pire ennemi. Destiné à une profession à laquelle il n'a jamais voulu se préparer, élevé dans l'attente d'un héritage qui ne lui est jamais venu, il a eu à essuyer toutes les vicissitudes dont une semblable existence peut être assiégée. Lui et un plus jeune frère, tous deux orphelins dès l'enfance, avaient été recueillis par un parent fort riche qui devait partager sa fortune entre eux. Mais trop indolent pour le courtiser, trop honnête pour le flatter, l'aîné perdit peu à peu du terrain dans les affections du vieillard et se vit supplanté par le cadet qui jouit aujourd'hui de la fortune à lui tout seul. Jack Redburn, car Jack Redburn, il était à l'école et Jack Redburn, il est resté toute sa vie, Jack Redburn, donc, est depuis 8 ans l'hôte intime de ma maison. Il est mon bibliothécaire, mon secrétaire, mon intendant et mon premier ministre. Il est un peu musicien, un peu littérateur, un peu acteur, un peu peintre, menuisier adroit et jardinier exceptionnel, ayant eu toute sa vie une aptitude merveilleuse pour apprendre tout ce qui ne lui était d'aucune utilité. Il adore les enfants et c'est le plus admirable garde-malade qui ait jamais vu la lumière du jour. Il a été en contact avec toutes les classes de la société et a connu la plus noire misère, ce qui n'empêche pas que ce soit l'être le moins égoïste, le plus tendre, le plus enthousiaste et le plus loyal. Par quelle fantaisie la nature forme-t-elle des mélanges aussi hétéroclites, je n'en sais rien. Mais je sais qu'elle nous en montre de fréquents échantillons et que le plus frappant de tous est certainement Jack Redburn. Je serais bien embarrassé de dire son âge. Sa santé n'est pas des meilleures et la profusion de cheveux gris qui ombragent sa figure lui donne une apparence fatiguée et usée. Cependant, nous le considérons toujours comme un jeune homme et si un esprit demeurait jeune, même après le plus rude contact avec le monde, donne des droits à être appelé jeune homme, je puis me permettre de dire que Jack Redburn est un véritable enfant. Les seuls moments où j'ai vu sa joyeuse insouciance l'abandonner, c'est ou bien le dimanche quand il pleut, alors il devient singulièrement religieux et solennel, ou bien quelquefois le soir quand il a joué sur sa flûte un air sentimental. Dans ces deux cas, il a une prédisposition naturelle à tomber dans le mystérieux ou le terrible. Comme spécimen de ses talents, dans cet ordre d'idées, je renverrai le lecteur à une histoire tirée de la caisse de l'horloge qui suit immédiatement ce chapitre. Il me l'apporta, il n'y a pas bien longtemps, un soir à minuit, en me disant que l'épisode principal lui avait été inspiré par un rêve fait la nuit précédente. Son appartement se compose de deux chambres bien gaies donnant sur le jardin. Et l'un de ses grands plaisirs consiste à changer et à rechanger continuellement ses meubles de place, de manière à épuiser pour eux les dispositions les plus variées. Depuis qu'il est ici, je ne pense pas qu'il ait dormi 2 nuits de suite avec la tête de son lit placée de la même manière. Et chaque fois qu'il en modifie l'emplacement, il prétend que c'est pour la dernière fois. Au début, ces changements continuels rendaient ma gouvernante presque folle, mais peu à peu, elle s'est réconciliée avec eux, et maintenant elle y est si bien faite que souvent Jack et elle se consultent gravement entre eux à propos de la prochaine modification qui doit toujours être définitive. Quels que soient ces arrangements, le goût le plus parfait y préside toujours, et chacun des innombrables objets se rapportant à ses innombrables occupations est toujours religieusement à sa place. Il a longtemps été sujet à des crises accidentelles, surtout par les jours de beau temps, sous l'influence desquels il s'habillait avec le plus grand soin. Puis, sous prétexte de promenade, il disparaissait et ne reparaissait qu'au bout de quelques jours. Peu à peu, les accès s'éloignèrent et finalement disparurent tout à fait. À présent, il sort rarement, sauf l'été, le soir, pour faire un petit tour. Je ne sais si à cet égard il se défie de sa force morale et si, par suite, il a peur de s'habiller, mais nous le voyons rarement vêtu autrement que d'une espèce de robe de chambre qui lui donne l'air d'un spectre. Il a des poches démesurées et remplies d'une collection de toute espèce d'objets bizarres qu'il recueille partout. Les amis de nos amis sont nos amis, dit-on. C'est aussi que le quatrième d'entre nous est Monsieur Owen Miles, un bien digne homme, qui avait été très bon pour Jack avant que mon ami le sourd et moi ne lui soyons rencontrés. Monsieur Miles a été négociant, mais ayant perdu une femme qu'il adorait, il s'est retiré des affaires pour mener une vie simple et tranquille. C'est un excellent homme, le plus honnête qu'on puisse voir, n'ayant pas la conception très prompte et remplie de préjugés très amusants quelquefois, comme le lecteur aura l'occasion de le constater. Il nous a tous en grande vénération, mais Jack Redburn est à ses yeux une espèce de prodige qu'il est ravi de pouvoir rapprocher d'aussi près. Il estime non seulement que personne au monde ne peut faire autant de choses différentes que Jack, mais que personne non plus ne pourrait les faire aussi bien. Et jamais il n'appelle mon attention sur une des ingénieuses occupations de son idole sans me murmurer à l'oreille en me poussant du coude. Si seulement il en avait fait son métier, si seulement il en avait fait son métier. Ce sont deux compagnons inséparables. Bien que M. Miles n'ait jamais l'occasion ni la possibilité d'aider Jack, on pourrait presque supposer que Jack ne peut rien faire sans lui. Qu'il lise, qu'il écrive, qu'il s'habille, qu'il fasse de la menuiserie, du jardinage, qu'il joue de la flûte ou qu'il fasse n'importe quoi, il a toujours à côté de lui Monsieur Miles, boutonné jusqu'au menton dans sa redingote bleue et le regardant avec une expression de joie indicible, comme s'il ne pouvait en croire le témoignage de ses sens et s'il semblait douter que l'on puisse être aussi habile, sinon en songe. Le lecteur connaît maintenant mes amis aussi bien que moi. Ce que contient l'horloge, confession trouvée dans une prison sous le règne de Charles II. J'avais servi à l'étranger dans l'armée de Sa Majesté avec une commission de lieutenant pendant les campagnes de 1677 et 1678. Après la conclusion du traité de Nimègue, je revins en Angleterre. Je quittai alors le service et me retirai dans une petite propriété située à quelques milles à l'est de Londres que j'avais récemment acquise au nom de ma femme. Je dois mourir demain. Cette nuit est la dernière que j'ai à vivre et ce que je vais écrire sera la vérité toute pure, sans aucun déguisement. Je n'ai jamais été ce qu'on appelle un bon garçon. Dès ma plus tendre enfance, j'étais sombre, morose, soupçonneux. J'ai parlé de moi au passé comme si j'avais déjà quitté ce monde, car tandis que j'écris, on s'occupe de creuser ma tombe, et mon nom est déjà inscrit sur le livre des morts. Peu de temps après mon retour en Angleterre, mon frère unique fut atteint d'une maladie mortelle. Je n'en éprouvais que peu ou même pas de chagrin, car depuis que nous étions parvenus à l'âge d'homme, c'est à peine si nous avions vécu ensemble. C'était un cœur loyal et généreux. Physiquement, il était mieux que moi, plus distingué, et tout le monde l'adorait. Tous ceux qui, soit à l'étranger, soit chez nous, désiraient faire ma connaissance, parce qu'ils étaient de ses amis, s'attachaient rarement à moi pour longtemps, et la plupart du temps, dans notre première conversation, ils m'exprimaient la surprise de voir deux frères se ressembler aussi peu d'aspect et de manière. D'ailleurs, je provoquais le plus souvent cet aveu. car soupçonnant le résultat de la comparaison que l'on faisait malgré soi, et me sentant au cœur une violente jalousie, je cherchais à la justifier à mes yeux. Nous avions épousé les deux sœurs. Ce nouveau lien me sembla nous désunir davantage. La femme de mon frère me connaissait bien. Je me rendais compte que je ne pouvais pas lui cacher aucun de mes mauvais sentiments. Aussi, je la haïssais et je ressentis une grande joie lorsque j'appris sa mort. Il me semble à présent que quelque étrange et terrible pressentiment de ce qui s'est passé devait alors planer sur nous. Elle me faisait peur, elle me hantait positivement, et maintenant encore son regard fixe et calme me poursuit comme le souvenir de quelque sombre vision et glace mon sang dans mes veines. Elle mourut peu de temps après avoir donné le jour à un enfant, un garçon. Lorsque mon frère eut conscience que son état à lui était désespéré, il fit appeler ma femme à son lit de mort et confia à sa protection le petit orphelin qui avait alors 4 ans. Il léguait à son fils tout ce qu'il possédait, avec stipulation qu'en cas de mort de l'enfant, tout reviendrait à ma femme en reconnaissance de ses soins et de son affection. Il échangea avec moi quelques paroles fraternelles, déplorant notre longue séparation, et il mourut. Nous n'avions pas d'enfant, et comme une tendresse étroite avait toujours uni les deux sœurs, comme ma femme avait toujours servi de mère à ce petit garçon, elle l'aimait ni plus ni moins que si c'eût été son propre fils. L'enfant, de son côté, lui était passionnément attaché, mais au physique et au moral, il était toujours le portrait vivant de sa mère et me regardait lui aussi avec défiance. Je ne puis guère dire au juste quand j'éprouvais cette impression pour la première fois, mais bientôt, en présence de l'enfant, je me trouvais mal à l'aise. Il avait sans cesse les yeux braqués sur moi, jamais je ne pus les lui faire baisser. Il avait peur de moi. Mais en même temps, il semblait aussi me mépriser d'instinct. Et même lorsqu'il reculait sur mon regard, comme il le faisait quand nous étions tous les deux seuls, pour se rapprocher de la porte, il dardait toujours sur moi des yeux étincelants. Il se peut que je me dissimule à moi-même la vérité, mais je ne pense pas avoir eu, au début, l'idée de lui faire le moindre mal. Peut-être m'est-il arrivé d'évaluer le profit que nous aurions tiré de sa succession, et ai-je alors souhaité sa mort, mais je ne crois vraiment pas qu'il me soit venu à l'idée de la provoquer. Cette idée ne me vint pas non plus tout d'un coup, mais lentement et peu à peu, se présentant d'abord sous une forme vague et très lointaine, comme lorsqu'on pense à un tremblement de terre ou à la fin du monde, se rapprochant ensuite peu à peu et perdant quelque chose de son horreur et de son invraisemblance, puis arrivant à faire partie intégrante de mes pensées journalières, presque à l'exclusion de toute autre idée. Finalement, j'en arrivais à me demander non plus si je le réaliserais, mais comment je le réaliserais sans compromettre ma sécurité personnelle. À dater de ce moment, il me fut impossible de supporter que l'enfant me vît le regarder. J'étais en proie à une sorte de fascination, sous l'empire de laquelle je ne pouvais m'arracher à la contemplation de ce corps maigre et débile, ni m'empêcher de penser combien mon projet serait facile à exécuter. Parfois, je montais à pas de loup jusqu'à sa chambre et je le regardais dormir. Mais plus souvent, je rôdais dans le jardin, aux environs de la fenêtre de la chambre où il faisait ses premiers petits devoirs. Il était assis là, sur un petit siège bas, à côté de ma femme. Caché derrière un arbre, je le guettais pendant des heures entières, tressaillant, comme un misérable lâche que j'étais, quand frémissait une branche, puis je revenais pour tressaillir encore. Non loin de la maison, mais hors de vue, et dans un endroit très isolé, il y avait un étang assez profond. Je passais plusieurs journées à fabriquer avec mon couteau de poche un grossier petit bateau de bois. Lorsqu'il fut terminé, je le laissais tomber sur le passage de l'enfant, puis je me cachais derrière des groupes d'arbres près desquels il devait passer lorsqu'il irait mettre à l'eau son jouet, et je guettais sa venue. Il ne vint cependant ni ce jour-là ni le suivant, bien que je l'attendisse depuis midi jusqu'à la chute du jour. J'étais sûr que je le tenais en mon pouvoir pourtant, car je l'avais entendu parler et reparler de son petit bateau, et je savais que son grand plaisir était de le prendre avec lui dans son lit. Je ne ressentais ni faiblesse ni fatigue, j'attendais toujours patiemment, Et le troisième jour, l'enfant passa devant moi, courant gaiement avec sa chevelure soyeuse au vent et chantant, Dieu ait pitié de moi, une joyeuse ballade dont il pouvait à peine balbutier les paroles. Je le suivis sournoisement, me glissant sous quelques arbrisseaux qui poussaient là, et le démon seul peut savoir quelle angoisse m'étreignit en approchant du bord de l'eau. Enfin, j'étais tout contre lui. Je m'étais agenouillé et je levais la main pour le pousser dans l'étang quand il aperçut mon image dans l'eau et se retourna. C'était positivement le fantôme de la mère qui me fixait avec les yeux de l'enfant. Le soleil, qui jusque-là était resté caché derrière les nuages, brillait dans le ciel resplendissant et inondait de son éclat l'herbe verdoyante, l'eau transparente et les gouttes de pluie qui scintillaient au bout des branches. Le moindre objet me semblait avoir des yeux. Toute la lumière de l'univers s'était donc concentrée là pour éclairer mon crime. Je ne sais pas quelle parole il prononça. Il était d'un sang hardi et courageux. Tout jeune qu'il était, il ne s'humilia pas devant moi, ne se jeta pas à mes pieds. Je l'entendis seulement s'écrier qu'il essayerait de m'aimer, puis se mit à courir vers la maison. Ici, mes souvenirs s'embrouillent. La première chose que je vis ensuite, ce fut mon épée nue dans ma main, et l'enfant étendu mort à mes pieds, son pourpoint souillé de sang, mais d'ailleurs exactement tel que je l'avais vu pendant son sommeil, jusqu'à son attitude qui était la même, sa joue appuyée sur sa petite main. Je le pris dans mes bras et le déposai, bien doucement, maintenant qu'il était mort, dans un fourré. Ma femme était absente ce jour-là et ne devait rentrer que le lendemain. Notre chambre à coucher, la seule donnant de ce côté de la maison, avait une fenêtre élevée de quelques pieds seulement au-dessus du sol. Je résolus de descendre par là pendant la nuit et d'enterrer le petit cadavre dans le jardin. Je ne songeais pas un instant qu'en somme mon plan avait échoué, qu'on dringuerait les temps sans rien trouver, et que, par suite, la succession de l'enfant ne serait pas ouverte, puisque j'étais obligé de soutenir qu'il avait dû se perdre ou avoir été volé. Toutes mes pensées étaient concentrées et comme enchevêtrées autour de cette nécessité capitale et absorbante, cacher ce que j'avais fait. Ce que je ressentis quand on vint me prévenir que l'enfant avait disparu, quand j'ordonnais des recherches dans toutes les directions, haletant et frissonnant à l'approche de chacun, aucune langue ne saurait l'exprimer, aucune cervelle humaine ne saurait le concevoir. J'enterrai le petit cette nuit-là. Lorsque j'écartai les ronces et que mon regard pénétra dans l'épais fourré, un ver luisant brillait, comme le visible esprit de Dieu, sur le corps de ma victime. Je regardai dans la fosse après y avoir déposé l'enfant, le ver luisant brillait toujours sur sa poitrine, tel un œil de feu implorant la divinité et prenant les étoiles à témoin de ma funèbre besogne. J'avais encore à revoir ma femme, à lui apprendre la nouvelle, à lui donner l'espérance que l'enfant serait sans doute bientôt retrouvé. Tout cela, je le fis, et avec quelque apparence de sincérité, j'imagine, car je ne fus l'objet d'aucun soupçon. Puis je m'assis à la fenêtre de ma chambre et j'y restai toute la journée, les yeux rivés sur la place où gisait le terrible secret. C'était une pelouse que l'on venait de bêcher pour la gazonner à nouveau et que j'avais choisi pour ce motif les traces de mon travail devant, la moins que partout ailleurs, attirer l'attention. Les hommes occupés à rapporter à côté des unes des autres les petites mottes de gazon ont dû me croire fou. Je leur répétais continuellement d'expédier bien vite leur ouvrage, puis je les quittais. Mais je revenais presque aussitôt travailler avec eux, je piétinais le sol, je les pressais avec une ardeur furibonde. Ils terminèrent enfin leur ouvrage vers le soir et je pus me croire presque sauvé. Je dormis, non pas de ce sommeil dont on se réveille joyeux et dispos, mais d'un sommeil agité, passant de rêves vagues et obscurs où dominait le sentiment que j'étais irrévocablement perdu à des visions de tertres gazonnés d'où émergeait tantôt une main, tantôt un pied, tantôt la tête elle-même. Alors je me réveillais en sursaut et je courais à la fenêtre pour bien me convaincre que ce n'était qu'un cauchemar. Cela fait, je me glissais de nouveau dans mon lit et je passais ainsi la nuit partagée entre ces accès de terreur et des frissons convulsifs, me levant et me recouchant au moins une vingtaine de fois et recommençant sans cesse le même rêve, ce qui était 100 fois plus cruel que de demeurer éveillé, car chaque rêve me causait à lui seul autant de souffrances morales qu'une nuit d'angoisse tout entière. Une fois, je m'imaginais que l'enfant était parfaitement vivant et que je n'avais jamais attenté à ses jours. Le réveil qui suivit ce songe-là fut la plus atroce de toutes mes tortures. Le lendemain, je m'assis encore auprès de la fenêtre, incapable de détacher mon regard du fatal endroit. Bien que la fosse fût recouverte de gazon, elle était aussi visible pour moi, son contour, sa grandeur, sa profondeur, ses bords irrégulièrement creusés, que si elle eût été exposée à la clarté du jour. Un domestique passait-il par là? Je m'imaginais qu'il allait s'y abîmer. Était-il passé? Je regardais si ses pas n'avaient pas mis au jour les rebords de la fosse. Un oiseau venait-il s'y poser? Je tremblais que par quelque funeste coïncidence, il ne devînt l'instrument de la découverte du crime. Si un souffle de vent venait à moi de ce côté, il me murmurait le nom d'assassin. Bref, je ne pouvais rien voir ni rien entendre, si ordinaire, si banal, si peu important que ce fût, sans frissonner de terreur. C'est dans cet état de perpétuelle inquiétude que je demeurai 3 jours. Le 4e jour se présenta chez moi un de mes anciens compagnons d'armes, escorté d'un autre officier de ses amis que je n'avais jamais vu. M'éloigner du lieu où gisait ma victime me semblait impossible. Aussi, comme la soirée était splendide, j'invitai mes hôtes à prendre place dans le jardin autour d'une table où j'avais fait servir un flacon de vin vieux. Moi, je m'assis sur une chaise que je plaçai sur la tombe même. Assuré désormais que personne ne pourrait la déplacer à mon insu, je m'efforçai de boire et de causer avec mes visiteurs. Ils espéraient, me dirent-ils, que ma femme allait bien, qu'elle n'était pas obligée de garder la chambre, que ce n'était pas leur présence qui l'avait fait fuir. Au sujet de l'enfant, je ne pus leur répondre qu'en balbutiant. L'officier qui m'était inconnu tenait les yeux constamment baissés, et ce regard ne quittait pas le gazon pendant que je parlais. Il n'en fallut pas davantage pour me terrifier. Apercevait-il quelque chose qui pût lui faire deviner la vérité? Brusquement, je lui demandai s'il supposait que... Et je m'arrêtai. « Que le petit ait été assassiné ?» me demanda-t-il tranquillement. « Oh non ! Quel intérêt aurait-on pu avoir à tuer ce pauvre enfant ?» Mieux que personne, j'eusse pu lui répondre, mais je me tins quoi, frissonnant comme si j'avais eu la fièvre. Ils se méprirent sur la véritable cause de mon émotion et m'exprimèrent pour me consoler l'espoir qu'on ne tarderait pas à retrouver l'enfant. Une belle consolation, en vérité. Tout à coup, nous entendîmes des hurlements retentissants et nous vîmes sauter par-dessus le mur 2 énormes chiens qui, bondissant dans le jardin, répétèrent l'aboiement particulier que nous venions d'entendre. « Des limiers !» s'écrièrent mes hôtes. Il n'était guère besoin de me le dire. De ma vie, je n'avais vu de chien de cette espèce, mais j'avais immédiatement deviné que c'était des limiers et pourquoi ils venaient. Cramponné à mon siège, je ne pouvais plus ni faire un mouvement, ni articuler une parole. « Ils sont de bonne race, » ajouta mon ancien camarade. « Sans doute, on les a fait sortir pour les faire travailler, et ils ont échappé aux gardes qui les conduisaient. » Il se retourna, ainsi que son ami, pour regarder les chiens qui, le nez entre les jambes, ne restaient pas une seconde en place, courant de ci, de là, de long en large, et s'éloignant pour revenir aussitôt, décrivant des cercles autour de nous, arpentant la pelouse comme des bêtes sauvages, sans s'occuper de nous, mais répétant de loin en loin leurs sinistres hurlements, le nez toujours collé au sol et quêtant partout d'un air affairé. Bientôt ils se mirent à renifler la terre avec plus d'ardeur que jamais. Quoiqu'ils ne fussent pas encore fixés sur un point déterminé, leur circuit se rétrécissait toujours et ils se rapprochaient de plus en plus de l'endroit où j'étais assis. À la fin, ils arrivèrent tout contre mon siège et essayèrent en hurlant d'écarter les barreaux de bois qui les séparaient du sol. Je lisais, dans le regard de mes compagnons, toute l'horreur qui était peinte sur mon visage. « Ils sentent quelque chose, » dirent-ils d'une seule voix. « Ils ne sentent rien du tout, » répliquai-je affolé. « Au nom du ciel, écartez-vous, » ajouta sérieusement mon ami, « ou vous allez être mis en pièces. »« Ils peuvent m'arracher tous les membres l'un après l'autre, je ne bougerai pas d'ici, » m'écriai-je. « Quoi, un homme être massacré par ces chiens de malheur, mais sabrez-les donc !»« Mais ils sont sur une piste, la piste de quelque horrible mystère, » dit l'officier, que je ne connaissais pas, en tirant son épée. « Au nom du roi Charles, prêtez-moi main forte et assurons-nous de cet homme. » Tous deux bondirent sur moi et m'entraînèrent à l'écart tandis que je me débattais, les frappant et les mordant comme un furieux. Après une courte lutte, je me trouvais maintenu entre les deux, et pendant ce temps, les chiens exaspérés grattaient la terre et faisaient jaillir autour d'eux comme une véritable pluie. Que dirais-je de plus que je tombais à genoux et que je confessais mon crime, claquant des dents et implorant mon pardon? Que depuis j'ai nié, mais qu'à présent j'avoue une fois de plus que j'ai été jugé, reconnu coupable et condamné, que je n'ai pas la force de devancer le châtiment, ni de l'attendre avec courage, que personne n'a pitié de moi, que je n'ai ni consolation, ni espoir, ni ami, que, par bonheur, ma femme a perdu momentanément ses facultés qui lui auraient permis de comprendre mon infamie et mon malheur, que je suis seul dans ce donjon de pierre, seul avec mon mauvais génie, et que je dois mourir demain. Ici commence le magasin d'antiquités. Correspondance. Maître Humphrey a eu l'honneur de recevoir la lettre suivante, écrite sur du papier très parfumé et scellée de cire bleue de ciel avec un cachet représentant deux colombes se becquetant. Elle ne débute par aucun des protocoles ordinaires, mais commence de la façon suivante. Basse, mercredi soir. Ah, quelle indiscrétion, Seigneur! Je rougis de penser que c'est moi qui adresse en tremblant ces lignes à un être totalement inconnu et qui de plus appartient au sexe opposé. Je me sens précipité dans l'abîme et sans force pour m'arracher au gouffre béant qui m'attire. Moi, écrire à un homme, mais je ne veux pas y penser, je deviendrai folle. Mais soyons calmes, ce portrait, ce sourire, c'est lui, cette canne, c'est la sienne. Je l'ai vu ainsi bien des fois traverser mes rêves nocturnes sans jamais vouloir s'arrêter pour me parler. C'est lui, c'est cet homme accompli et pourtant si perfide. Puis-je m'y tromper? Ah non, je ne le puis. Soyons encore plus calmes, je voudrais être calme comme une tombe. Vous avez publié une lettre, la lettre d'un inconnu qui a fait battre mon cœur. Faut-il que ce nom que vous avez cru devoir supprimer, je vous le dise, est-ce... Mais pourquoi tant de questions, et puis-je m'y tromper? Ne craignez rien, je ne lui reprocherai pas sa trahison, je ne rappellerai pas ses promesses, ses serments et ce petit service d'argent que je lui ai rendu. Non, je veux seulement le voir, lui. Hélas, telle est la nature de la femme, et ainsi que le dit admirablement le poète, mais... Vous avez déjà deviné le sentiment qui m'agite. Dites-moi si ce n'est pas le plus doux. Oh, si, assurément. C'est dans cette ville même, et à ce titre elle m'est sacrée, que je le rencontrai pour la première fois. Et bien certainement, si la trace des bonheurs terrestres est enregistrée quelque part, nous les retrouverons là-haut, gravés sur des tables d'airain, ces parties de whist à 3 shillings 6 pence l'affiche. Il avait toujours un honneur, le plus souvent deux. Le fameux soir, nous étions à 8. Il leva ses yeux, illuminés par je ne sais quel charme séducteur, sur mon visage troublé. « Pouvez-vous, me dit-il, d'un air qui me révéla sa secrète pensée, et je sentis sur mon pied la tendre pression du sien, nos corps nous élancèrent à l'unisson, pouvez-vous, répéta-t-il, et chacun des traits de sa figure expressive ajoutait à sa question, « Pouvez-vous me résister ?» Je murmurai « Non » et je m'évanouis. Quand je revins à moi, on me demanda si j'avais été impressionné par la chaleur. Je répondis que cela devait être le punch. Combien on était loin de la vérité. Dieu soit loué, on n'avait pas deviné la mystérieuse profondeur de sa question. Le lendemain matin, il arriva à genoux. Je ne veux pas dire par là qu'il arriva positivement en se traînant sur les genoux jusqu'à ma porte, mais simplement qu'il tomba à mes pieds dès que la servante qu'il avait introduit eut disparu. Il apportait dans son chapeau des vers qu'il me dit être de lui, mais que j'ai reconnu plus tard pour être de Milton. Il avait aussi une petite fiole avec l'étiquette Laudanum, un pistolet et une canne à l'épée. Il tira la lame de cette dernière, déboucha sa fiole et arma son pistolet, en s'écriant « Je suis venu pour vaincre ou pour mourir ». Il ne mourut pas. Il m'arracha l'aveu de mon amour, jeta son pistolet par une fenêtre qui donnait sur la cour et partagea avec moi une légère collation. Homme déloyal, homme sans foi, Combien d'années ont passé depuis sa perfide et inexplicable disparition? Pourrais-je lui pardonner d'avoir fui et aussi d'avoir oublié la petite somme qu'il devait me rendre au bout de 8 jours? Pourrais-je le repousser s'il revenait repentant, se jeter à mes pieds et m'offrir son nom? Réussirait-il encore à m'ensorceler, ce séduisant enchanteur, ou pourrais-je éviter ses filets en lui tournant le dos d'un air glacial? Je connais trop ma faiblesse pour oser m'y fier. Voilà encore mon cerveau qui bout. Vous connaissez son adresse, ses occupations, sa vie. Peut-être aucune de ses pensées les plus intimes n'est-elle cachée pour vous. Vous êtes bon et compatissant. Révélez-moi tout ce que vous savez de lui. Tout, mais surtout sa rue et son numéro. L'heure du courrier est arrivée, le facteur sonne. Dieu veuille que ce ne soit pas le glas de l'amour et de l'espérance. Signé Belinda. Postscriptum. Excusez les divagations d'une mauvaise plume et d'une tête affolée. Adressez votre réponse, poste restante. Le facteur impatienté d'attendre sonne avec rage à la porte. Postscriptum. Je rouvre ma lettre pour vous dire que le facteur est parti. N'attendez donc pas la présente avant le prochain courrier. Maître Humphrey ne croit pas pouvoir fournir à sa jolie correspondante l'adresse du monsieur en question, mais il publie sa lettre comme un appel public fait à sa bonne foi et à sa galanterie.